Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute.
Bonjour Marius et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont les technologies d'IA et les interactions que l'on a avec elles transforment notre humanité. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours et comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'impact de l'IA sur l'être humain ?
Oui, bonjour Clément. Par moments, je me pose la question et je vous avoue que c'est une vraie crainte. Est-ce que ce n'est pas les algorithmes qui ont décidé que je devais m'intéresser à ce sujet-là ? Vraiment, je n'ai pas la réponse. Pourquoi je vous dis cela ? C'est parce que je suis donc chercheur en management public à Aix-Marseille Université et j'avais une envie d'écrire un livre pour pouvoir penser plus largement parce que les articles en centre de gestion sont sur des sujets très, très micro, avec une lourdeur méthodologique. En plus, il n'y a pas d'impact ensuite dans le monde parce que ce n'est pas lu. Il y a un vrai problème là-dessus, l'utilité de la recherche. Et donc, j'avais besoin de respirer un peu et j'ai eu envie de lire, et d'écrire surtout. Et donc, j'ai beaucoup lu l'ouvrage de Baptiste Rapin qui est en philosophie et management, et donc j'ai voulu un peu suivre ce même chemin. Et donc, je décide de vouloir penser la société, rien que ça, et je me suis dit que le meilleur angle, c'était la postmodernité pour essayer d'avoir l'angle le plus large possible. La fin des grands récits qui structurent les sociétés, je me suis dit que c'était le meilleur moyen d'entrer sur ma culture générale qui permettait d'essayer de penser le monde. Et voilà, j'allais avec une idée assez large au départ. Et donc, je commence véritablement à travailler à partir de début 2020. Et en 2021, je sépare mon fichier de travail en deux parce que la catégorie IA avait de plus en plus grossi. Et je me suis dit, le facteur social total désormais, c'est l'IA. Voilà. C'est vraiment le plus important. Tout passe par là. C'est ce qu'il faut penser. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et quand je vous disais que je ne savais pas si c'est l'IA, les algorithmes prédictifs de mes coûts qui ont décidé que j'allais faire cela, c'est parce que est-ce que l'IA, je trouvais ça intéressant dès 2021 parce que c'était, je pense que ça l'est absolument, ou est-ce que j'étais bombardé par des algorithmes prédictifs de lecture sur le sujet à cause de Google Actualité ? Question indiscernable. Voilà un petit peu mon parcours et comment j'en suis venu jusqu'à vous.
Je voudrais bien qu'on revienne juste sur un terme que vous avez utilisé, et je crois que c'est assez important dans votre réflexion, c'est le terme de postmodernité. Si vous voulez bien juste peut-être le définir un petit peu, ou en tout cas nous dire ce que vous mettez derrière ça.
Bien sûr. Je pense avec Lyotard et la condition postmoderne, ouvrage publié en 79, l'idée c'est d'acter le fait que les grands discours, les grands récits structurants se sont effondrés. On pense bien sûr à la religion, on ne se rend même plus compte aujourd'hui, mais pour un homme du Moyen-Âge, ou encore un homme de l'Ancien Régime, l'Église catholique et le catholicisme structurent l'ensemble de l'existence. Structurent le rapport à soi, le rapport aux autres, la société. Ensuite, les religions se cassent la gueule. Il y a ce que le philosophe Raymond Aron a appelé les religions séculières, qui était le communisme, qui est toujours d'ailleurs le communisme et le nazisme. Voilà, c'est ces grands discours-là qui structurent la totalité du réel pour un individu, qui est total. Et donc, la postmodernité, c'est la sortie de ces grands récits. C'est aussi la sortie de la modernité, qui était elle aussi un grand récit, avec l'idée de progrès, notamment de progrès par la technique. Mais j'adore citer le philosophe Gunther Sanders, tous nos concepts moraux ont été gazés à Auschwitz et atomisés à Hiroshima. Ce qui veut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, les grands récits sur les côtés de la philosophie de Hegel, avec l'idée que l'histoire a un sens, la raison s'incarne dans l'histoire, qu'il y a un progrès, tout cela se casse la gueule parce qu'on se rend compte que, un, la technique permet à Auschwitz et Hiroshima, on se rend compte que la catastrophe peut arriver parce qu'elle est arrivée et on ne croit plus à ces grands récits-là. Pour terminer là-dessus, il suffit de regarder des documentaires sur le sujet. Quand on voit fin du 19e siècle, du 20e siècle, je pense que ça s'accumule avec L'homme sur la Lune, mais ensuite, ça y est, c'est fini. L'idée qu'avec le progrès technique, on va vers un nouveau monde. Voilà. Donc, la postmodernité, c'est l'époque qui est la nôtre, la fin des grands récits structurants, la fin des grands récits qui font collectif. C'est ça l'idée.
Vous évoquiez le fait que vous aviez publié un livre sur l'IA, qui s'appelle L'homme diminué. Donc, vous parlez plutôt d'homme diminué qu'augmenté par l'IA, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend, où l'IA va permettre d'augmenter nos capacités. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce concept et expliquer en quoi, pour vous, l'IA diminue l'être humain plutôt qu'elle l'augmente ?
Je suis, sur ce sujet-là, parti fleur au fusil. Ça veut dire que j'ai découvert le sujet, j'en avais une petite culture générale, j'avais entendu parler bien sûr de l'IA qui avait battu les meilleurs joueurs de Go ou ce genre de choses, la reconnaissance d'images, là on est très fin décennie de 2010, Et donc, je n'ai pas d'a priori particulier. Je lis, je lis, je lis. Pour tout vous dire, mon fichier de travail faisait 400 pages au moment où je décide de l'arrêter pour travailler sur écrire mon ouvrage. Depuis 1 an et demi, je suis à 850 pages. Je pense que j'atteindrai les 1000 pages à peu près au mois de février-mars. Donc, j'accumule beaucoup, beaucoup de données sur le sujet de l'IA dans tous les domaines possibles, amour, société, travail, armement, tout ça. Et ce que je vois, c'est des études, mais par centaines, de l'impact négatif que ça produit sur l'homme. Voilà un petit peu mon idée. Enfin, en gros, je suis très inductif en la matière. Je ne fais que lire le réel, que j'ai toujours, c'est que je n'ai rien à prouver si ce n'est le réel. Tu sais, je suis un universitaire, je n'ai rien à vendre, j'ai juste à faire mon travail honnêtement et à offrir à la société du savoir. Et quand j'ai du savoir, c'est pas tant ce que je pense. Le gros de mon travail, c'est un sacerdoce d'ailleurs. Absorber les actualités de l'IA, les données, les chiffres, les études, et ensuite pouvoir les rendre. C'est un petit peu mon idée. Écoutez, en termes d'hommes diminués, j'aime bien penser au philosophe Ivan Illich, quand il nous dit que des savoirs vernaculaires, des savoirs du commun, nous sont enlevés par la société industrielle. Par exemple, je vais prendre un exemple lié avec l'IA. Je ne sais pas si vous avez entendu, pas longtemps, l'ancienne cofondatrice de Tinder, Madame Wolf, elle a cofondé une application qui s'appelle Bumble, et elle vous dit en 2024, d'ailleurs ça fait tout le monde dans la salle lorsqu'elle évoquait cela, elle disait, mais comment pouvons-nous vraiment vous apprendre à sortir avec quelqu'un? Donc là, l'idée, c'est que vous avez une IA qui va draguer pour vous. Et donc, ça vous dépossède de savoir qui était assez naturel, la capacité de rentrer en contact avec autrui et de tenter de le séduire. Voilà typiquement l'homme diminué, c'est qu'on nous prive de ce qui relevait de choses assez immédiates. Facebook nous a promis d'avoir plus d'amis, au final on en a moins. En 20 ans, les adolescents sont passés de 2h30 aux États-Unis, hein, de 2h30 de relations amicales en physique à 48 minutes. Donc, en termes de relations amicales, c'est en train de se casser la gueule. En termes de relations amoureuses, les chiffres sont en train de diminuer. J'ai plus les chiffres précis, mais bon, en tout cas, il y a une diminution assez stricte par rapport aux jeunes adolescents et à leurs relations amoureuses. On nous promettait avec Internet, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui avec de l'IA, d'avoir accès à toute la connaissance du monde. On n'a jamais si peu lu. Alors, j'ai trouvé récemment des études sur la culture générale, c'est en train de se casser la gueule également. Donc, moi, je pars d'une attitude très inductive. Je vois ce qui se passe. Quand je dis je vois, c'est des faits, des études et des chiffres, et j'en fais remonter un constat. On parle beaucoup en ce moment, vous savez, de maladies mentales, notamment pour de notre jeunesse. C'est dû aux écrans. Alors là-dessus, les réseaux sociaux et les écrans, en termes de mal-être, il n'y a pas de débat. Vous avez des hypothèses concurrentes. Vous avez deux chercheurs aux États-Unis très connus en la matière, John Haidt et Leo Twenge, qui ont un document en ligne qu'on peut voir. C'est 300 pages de revue de littérature académique sur le sujet. Les seuls points de débat qu'il peut avoir, ce sont les marchands de doute. Donc, c'est un marché qui pèse des centaines de milliards. Donc, forcément, en face, vous avez la création de doutes, de faits alternatifs ou d'études douteuses. Donc là, on est en train de détruire les capacités cognitives de toute une génération. Alors, l'addiction à TikTok, n'en parlons pas. Grâce à des algorithmes prédictifs qui peuvent prédire vos goûts. Et là, ce qui m'inquiète, mais fondamentalement, c'est qu'à l'heure de l'épidémie de solitude, à l'heure où nos plus jeunes ne sortent plus de leur chambre, on est en train d'arriver à l'heure des IA interactives. Et donc, des IA, c'est déjà commencé. Vous avez notamment GPT-4 qui a une voix. Alors, la version anglaise, la voix est vraiment parfaite. Elle est extrêmement humaine. La voix française est un peu moins bonne, mais ça va arriver. Et donc, on va pouvoir créer une relation intime avec une IA. C'est déjà le cas de Replica. 30 millions de configurations d'avatar. Replica, ça permet de créer un ami ou une petite amie virtuelle. Et donc, voilà cet homme diminué, c'est un homme qui ne sort plus de sa chambre, qui est complètement lobotomisé, qui est un crétin digital, comme disait Michel Lesmurger. On a atteint ce qui relève de l'édifice humain, comme dit Lesmurger, ses capacités langagières, capacités de concentration. Pour ma part, je parle de capital neuronal pour décrire ce que fait ces algorithmes, ces IA interactives à notre humanité. Donc, ouais, cet homme diminué, donc derrière moi, si j'ose dire, j'ai mon fichier de 200 de pages avec faits, études et chiffres. Je vais en dévoiler, bien sûr, là, quelques-unes durant notre émission, mais ce n'est pas tant un point de vue que je cherche à démontrer absolument. C'est pour ma part très inductif.
une question complémentaire par rapport à ça, mais comment expliquer dans ce cas-là que les faits que vous évoquez, l'impact négatif que peuvent avoir ces algorithmes, ces outils sur la santé mentale, sur la solitude, sur tous ces sujets-là, soit pas plus visible, entendu dans les médias grand public et qu'on entende surtout des représentants de ces entreprises ou de ceux qui fabriquent ces technologies et qui mettent en avant plutôt les aspects positifs et moins ces aspects négatifs.
Déjà, il y a ce qu'on évoquait à l'instant, les fabricants de doutes, les marchands de doutes. Vous savez, c'est comme pour l'industrie du tabac. Arte a fait un très bon documentaire en la matière, hein, je vous invite à le regarder, qui s'intéresse à la question du bisphénol, c'était la question du changement climatique, bien sûr, du tabac. Dès qu'il y a des milliards en jeu et que le régulateur, le pouvoir politique risque d'encadrer ça et de faire perdre de l'argent à des acteurs industriels, eh bien, immédiatement, on voit apparaître des études pseudo-scientifiques, on voit apparaître des experts de pacotille dans les médias. C'est normal. C'est normal. C'est un mécanisme extrêmement classique. D'ailleurs, marchand de doute, une expression sortie dans des documents de chez Philip Morris, qu'un lanceur d'alerte avait diffusé. Donc, document interne de Philip Morris, le cigarettier, c'est-à-dire, il nous faut, notre arme, c'est de créer le doute dans le public. Donc, il y a peut-être deux choses. Un, il y a des acteurs malveillants qui veulent faire de l'argent. Bon, c'est assez classique, hein, au final. Il y a une journaliste importante de la Silicon Valley, la plus importante. Elle a écrit un ouvrage récemment. La première phrase, c'est « Au final, ce n'était que du capitalisme. » Voilà. Derrière cette volonté des GAFAM de créer plus d'amis, de changer la société, il y a quand même une volonté de faire de l'argent, bon, au détriment de tout. Des relations sociales, des relations amoureuses, d'environnement. Bon, et là, il y a quand même un événement qui est en train d'advenir, me semble-t-il, notamment sur la question de l'éducation et des écrans. Alors, il y a un an, c'était Gabriel Attal qui disait que les écrans étaient une catastrophe sanitaire, mais bon, quelques jours plus tard, il allait au salon de la EdTech, donc des acteurs qui nous vendent des solutions numériques pour l'éducation. La science dit que ça ne sert à rien, que c'est négatif. Des pays entiers comme la Suède reviennent en arrière et s'excusent. Le Premier ministre disait, on a fait de l'expérimentation sur les enfants. Bon, c'est pas que. Mais pourtant, les politiques continuent. Donc, pourquoi? Parce que. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, mais qui s'intéressent pas réellement à la question. Donc, ils pensent que c'est très bien. Ils vont écouter les discours issus de consultants, de start-up ou autres. Et puis, l'autre explication que j'ai pour ma part, et qui est en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la postmodernité, c'est que quand on n'avait plus de récit structurant pour expliquer le réel, eh bien, tout ce que vous avez à la fin des fins, c'est le progrès technique. Cette croyance que le progrès technique, ça va être la solution à tout. Je lisais dans cette très bonne revue, cette revue The Atlantic, un article autour, justement, des IA, des relations amoureuses. Le journaliste disait, aujourd'hui, considérer qu'il y a une nature humaine, poser qu'il y a une nature humaine, c'est un discours perçu comme conservateur de droite face au discours des identités, puis dans le contexte états-unien, le discours woke. Et le problème, c'est que refuser l'idée qu'il y a une nature humaine, ça empêche de mettre des lignes rouges pour dire, ça, il ne faut pas le faire. Il y a des considérés, alors, sans poser des critères sur une nature humaine absolue, ça revient à l'idée qu'il y a des droits fondamentaux sur lesquels on ne doit pas venir. Mais la dignité, elle est protégée en droit. Bon, elle est protégée, j'ai envie de vous dire, uniquement en droit, parce que l'Union européenne le rappelle, que tout individu a droit à sa dignité, sa protection physique et morale. Mais bon, si réellement on appliquait ça, on ne laisserait pas TikTok entre les mains de notre jeunesse. Voilà ce que je pourrais vous répondre là-dessus. Donc, il y a quand même des voix qui se lèvent en la matière, des collectifs. Il y a eu un rapport qui a été remis à Emmanuel Macron, enfant écran à la recherche du temps perdu. Il y a là récemment, Gabriel Attal, bon, il dit tout son contraire, cet homme-là, donc c'est pas quoi en penser, mais le nouveau ministre à la réussite professionnelle, et à la réussite scolaire, pardon, et à l'enseignement professionnel, Alexandre Portier. Pareil, il avait le même discours que Gabriel Attal l'année dernière. On verra si ça change en termes de pratique, de dire que les écrans sont un vrai danger. Parce que là, il y a les études qui sont là, et puis il suffit d'avoir les adolescents près de soi pour voir les effets de l'addiction aux écrans. Donc ça commence à apparaître dans tout le corps social. Peut-être que là, il y a un moment d'espoir. Voilà. Pour tout vous dire, là, j'ai l'impression, mais je vais essayer d'être très inductif sans mettre de l'optimisme ou du pessimisme pour rester clinique, qu'il y a un revirement en la matière.
Et j'avais envie d'être un peu, alors je sais pas si c'est provocateur, mais sur ces outils-là, et je pense notamment aux LLM type ChatGPT et autres, ou des entreprises, et je pense notamment à une startup qui est en train d'être lancée par Cédric O, l'ancien secrétaire d'État au numérique, où l'idée, ça se fait d'avoir un LLM dans une incarnation physique, une sorte de boîte ou autre, qui pourrait être dans une classe. Et donc, qui ne serait pas forcément connecté à Internet, donc qui éviterait peut-être des fuites de données et qui permettrait à des élèves d'interagir avec lui. Moi, à titre personnel, je vois que Bah, c'est des sujets qui m'intéressent et je sais qu'avec mon fils, là, qui a presque 10 ans, bah, il utilise ChatGPT, puis on en discute et c'est vrai que je vois qu'il peut y avoir un intérêt à l'utiliser. Par exemple, j'ai pas la réponse à des questions, donc il y a une interaction qui se fait. Donc, je devais retourner le sujet de dire, oh, certes, et c'est une réalité, il y a un impact des écrans, il y a, pour autant, on vit dans un monde de plus en plus numérique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt à aborder ces questions, permettre aux enfants d'utiliser ces technologies avec un regard critique, et là, l'enseignant, il peut avoir un rôle très important, mais en tout cas, que ça soit pas quelque chose soit blanc où on utilise à fond les écrans, c'est génial, ou soit noir de c'est vraiment mal, on l'utilise pas. Parce qu'il n'y a pas un juste milieu à imaginer.
Un juste milieu, peut-être, mais il faudrait voir de quelle application on parle. Je sais que récemment, j'ai oublié le nom de ce monsieur, mais un acteur de la Silicon Valley, sorti de Stanford, passé par Tesla et OpenAI. Et quand il évoquait TikTok, il disait, c'est la première, il disait, c'était de la cocaïne digitale. C'est la première fois que je sens mon cerveau attaqué par une IA. Alors là, j'évoque le cas TikTok, mais pour vous dire que cette idée d'une sorte de juste mesure, elle est compliquée avec certaines IA, certaines applications, parce que c'est fait pour rendre accro, ça produit des effets particuliers sur les individus. Vous savez, moi, je m'intéresse particulièrement à l'assistant public, et quand je vois des tonnes de catastrophes dans l'assistant public avec des IA, je rappelle que le gouvernement des Pays-Bas est tombé en 2021, du fait d'usage d'algorithmes avec des taux d'erreur à 90% dans la caisse d'allocation familiale. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais des cas comme ça, il y en a des tonnes. Je me dis, mais comment c'est possible? Ben, je suis allé faire une revue de littérature, donc je suis allé voir la littérature académique, et je vois que lorsqu'on teste en laboratoire, on montre que dès qu'un humain utilise une IA, d'assister par une IA, eh bien, il se déresponsabilise. Il y a un effet de déresponsabilisation, pardon, produit par le fait d'être assisté par une entité qu'on va appeler IA. Donc, ça produit des effets particuliers. Ce n'est pas un outil. Le terme d'outil, je le récuse absolument, mais il n'y a pas que moi. C'est que un outil, ça n'a, par définition, ça n'a aucune autonomie. Strictement aucune autonomie. Alors que ce qui caractérise notamment l'IA, c'est son degré d'autonomie qui peut être plus ou moins fort. Là, on est face à quelque chose qui relève d'un système, qui relève d'une entité. Ça peut être perçu comme conscient par des individus. On appelle ça l'effet ELISA, l'anthropomorphisation. C'était cet été d'ailleurs, le MIT, vous pouvez aller sur cet internet, on voit les 717 risques liés à l'IA. Ces 777 risques sont catégorisés en 7 domaines et 23 sous-domaines. Et dans les 7 domaines, il y en a un, c'est l'interaction homme-machine, avec le risque d'exploitation de la confiance des individus et le risque d'attachement émotionnel dû à l'anthropomorphisation. Et donc, il y a des effets particuliers. Ce n'est pas un outil neutre. Ce n'est pas comme si on passait je sais pas, d'un stylo quatre couleurs au crayon gris. Non, là, il y a une différence qui est fondamentale. Et donc, quand on veut produire ce genre de système, moi j'aurais tendance à vous dire, en allant avec, me semble-t-il, du bon sens populaire, voire du bon sens paysan, faisons des tests en amont. C'est comme pour les médicaments, comme pour l'aéronautique civile, on fait des tests en amont avant de jeter ça dans l'espace public ou dans les écoles. Mais la sous-directrice à l'éducation, la directrice adjointe à l'éducation à l'UNESCO, Madame Giannini, elle disait, c'est un des rapports de l'UNESCO assez récent, mais comment est-il possible? Je vous dis ça de tête, hein. En gros, sans contrôle, sans étude, on a lancé des systèmes numériques dans tous les sens. Ça me pose une question existentielle. Et puis, je tiens à rappeler que il y a quand même un impact écologique derrière. Il y a aussi des effets plus que délétères pour les finances publiques de mettre des écrans de partout. Et au-delà de ça, la science montre que ça marche pas. Et des pays entiers sont revenus en arrière. Donc moi, ma question, c'est à quel moment on arrête de faire n'importe quoi. Donc oui, il faut bien sûr enseigner aux plus jeunes l'usage de l'intelligence artificielle, l'usage du numérique, mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on utilise le numérique et maintenant l'IA pour apprendre le français et les maths. Et ça, factuellement, c'est une catastrophe. Voilà. Et pendant ce temps-là, les élites protègent leurs jeunes des méfaits des écrans, et dans des écoles où c'est extrêmement restreint en termes d'écran. C'est assez. Enfin, ça pose question. Non, c'est que bon, les élites ont bien conscience des effets que ça produit. Enfin, je vous dis, moi, semble-t-il que c'est juste du bon sens et du réel. Est-ce qu'on peut se poser la question à minima, est-ce que ce dispositif-là, il est bon pour l'éducation? Faire des tests en amont? Et après le déployer. Et même s'il est bon, il faudrait se poser la question, mais si il double la capacité de lecture de nos jeunes, qui ont de vrais soucis, bon, peut-être que la question économique et écologique peut être mise en balance. Et encore. Mais les méthodes traditionnelles dans l'éducation sont bien meilleures qu'une masse d'écrans avec des coûts extraordinaires. Mais ça, c'est inaudible. Quand vous êtes dans l'idéologie de la technique, considérez que dès que vous dites le mot IA, ça y est, vous éteignez toutes les bonnes volontés et tous les éléments de raison. C'est terrible.
Vous évoquiez justement le fait que avec l'IA et toutes ces technologies dites d'intelligence artificielle ont changé un peu de paradigme. En tout cas, il y avait cette question de le degré d'autonomie qui se posait et qui se posait pas avec un écran ou avec d'autres outils numériques. Et ça fait écho à une question que je voulais vous poser, parce que pour le livre que vous avez publié, donc vous avez reçu le prix Jacques Ellul en 2024. Et j'aurais aimé savoir un petit peu en quoi justement la pensée de Lul, qui a été un critique du progrès technique, a influencé votre réflexion sur l'IA et votre vision plus largement.
Ah, le grand Jacques Ellul, peu connu en France du grand public, beaucoup plus, notamment aux États-Unis, en Corée du Sud, mais nul n'est prophète en son pays. Jacques Ellul, c'est quelqu'un qui traverse le XXe siècle. Il est au début du siècle, il meurt Ah, tout d'un coup, je vais peut-être dire une bêtise, donc j'ai peur, en 92, je crois, ou 94, 92, je crois que c'est sur des pouces. C'est quelqu'un qui critique le système, ce qu'il appelle le système technicien. Tout à l'heure, on a évoqué le terme d'outil, mais c'est qu'il faut voir que si on prenait un stylo, c'est pas relié à d'autres choses, il est posé devant vous, vous en faites ce que vous voulez. Si vous prenez GPT-4, par exemple, pour utiliser GPT-4, il faut être intégré dans le système. Ça veut dire qu'il faut un ordinateur ou un téléphone, il faut que ce soit branché sur secteur, donc il faut une centrale nucléaire derrière, il faut Internet avec des câbles à l'échelle mondiale, il faut GPT-4. Ben, c'est impossible de se représenter ce qu'est GPT-4, la puissance de calcul, ce que ça produit derrière. Et donc il faut tout l'ensemble d'un système technicien. Donc, on est pris dans un système technicien. Aujourd'hui, la technique forme un système dans lequel on est inséré. Et là, Ellul, pour ça, il est merveilleux. Quand il vous dit que la technique, alors, ce qu'il appelle la technique avec un T majuscule, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, la préoccupation majeure des individus principales, c'est la recherche de la méthode absolument la plus efficace à l'exclusion de toute autre chose. C'est-à-dire que nous recherchons l'efficacité. Peu importe l'éthique, peu importe d'autres valeurs. La question première, c'est l'efficacité. Et donc, la technique, tout ce qu'elle ne peut pas soumettre à son primat d'efficacité, eh bien, elle le détruit. Donc, Ellul nous dit, l'effacement des religions, du spirituel, c'est parce que la technique on peut pas optimiser concrètement le christianisme. Alors, j'ai vu dans l'actualité que désormais, bon, on peut parler à Jésus grâce à une IA. J'avais vu que c'était même une église, je crois que c'est en Italie, qui avait créé un prêtre avec une IA. Bon, forcément, ça commence à dire n'importe quoi, ça hallucinait. Donc, tout compte fait, c'est devenu ils ont enlevé sa collerette de prêtre, mais on commence à avoir des liens entre la spiritualité et l'IA, mais peut-être qu'on en reparlera. Et donc, ce que nous dit Ellul, c'est que l'homme, ayant un besoin de sacré, à sacraliser la technique, parce que la technique a détruit tout ce qui relevait de son sacré. Donc, Ellul me sert à comprendre que, un, la technique est partout, que deux, la technique forme un système, qu'ensuite, la technique est autonome. Ça, c'est une thématique extrêmement forte chez Ellul, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est vrai, souvent, on entend l'idée que si c'est pas moi qui le fais, un autre le fera. C'est pas la L'Europe ne devrait pas réguler parce que sinon les Chinois vont nous passer devant. Donc, vous voyez l'idée que la technique avance de manière autonome, mais également que le système est tellement compliqué, complexe, qu'il n'y a aucun individu qui pilote. Vous avez uniquement des techniciens qui sont des experts d'un sous-sous-système, mais qui n'ont pas une vision globale des choses. Alors, typiquement, je prends Los Alamos, le projet pour construire la bombe atomique. D'un coup, le nom ne revient plus aux États-Unis dans les années, enfin, dans la Seconde Guerre mondiale. Merci, oui, bien sûr, le projet Manhattan. Il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant de ce qu'était en train de faire, bombe atomique. Ah, c'est pour des raisons de secret défense. Mais ça veut dire qu'avec une organisation technicisée, bureaucratisée, aujourd'hui on pourrait dire algorithmisée, eh bien, un ensemble d'individus est capable d'agir dans un domaine sans savoir ce qu'il fait. Et même quand vous savez construire une bombe, est-ce qu'on est capable de prendre sa responsabilité d'un point de vue moral? Là, on serait du côté du fusil de Gunther Sanders, c'est l'idée de n'est pas capable de se représenter les effets de la technique. J'évoquais tout à l'heure GPT-4. GPT-4, alors je ne sais plus combien de. Je sais que Google, c'est 100 000 requêtes par seconde, mais en GPT-4, je ne sais pas combien de requêtes par jour, mais on ne peut pas imaginer un système technique qui écrit du code, écrit de la poésie en japonais, la traduit en allemand. Enfin, c'est irreprésentable. Voilà, Gunther Sanders, il évoquait l'irreprochabilité des effets de la technique. Il parlait bien sûr de 6 millions de cadavres. Il pensait à la Shoah. Il pensait aussi à la bombe atomique. On ne peut pas se représenter ces effets-là. Donc là, avec Ellul, ça nous permet de comprendre que la technique, c'est le facteur social total, c'est autonome, ça avance selon ses propres règles, que ça détruit l'homme parce que la technique a besoin d'adapter l'homme au système, et donc ce faisant, j'ai envie de dire, elle le blesse. Elle le blesse. La télévision nous avait déjà blessé. Il y avait une citation d'Ellul que j'aime beaucoup. C'est l'idée, attendez, je vais essayer de la retrouver. Ah oui, la pratique intensive de la télévision anesthésie l'acte réflexif de la conscience et inhibe la parole. Et aujourd'hui, quand vous rajoutez à la télévision nos écrans TikTok, ben, là on y est. On y est. Conscience réflexive, la parole. Pour ça, déjà, il faudrait lire. La présidente du Conseil national du livre disait récemment, en plaisantant, mais c'est terrible, elle disait, nous risquons d'avoir bientôt plus d'auteurs que de lecteurs, parce que c'est en train de se casser la gueule. Parce que le temps d'écran, il nous prive du temps de vie, qui peut être des relations amicales, une activité sportive. Ellul dit que la contemplation, la vie contemplative, c'est l'acte le plus révolutionnaire au sein du système technique. Parce qu'aujourd'hui, on est entièrement agité. Et là, vous savez, l'effet d'addiction provoqué par les écrans, il fait qu'un individu ne sait plus s'ennuyer. Il faut constamment moi, je parle de se recharger. En gros, je dis que la contre-conscience algorithmisée, qui fonctionne sur le rythme que les algorithmes décident, eh bien, quand on prend son smartphone, une étude montrait que c'était 200 notifications par jour pour l'adolescent, et c'est quasiment autant d'ouverture du. Ah, j'ai dit smartphone. Téléphone intelligent, pardon. Je me force à franciser tous les termes, sans quoi on ne sait pas de quoi on parle. Un égo-portrait, ça parle. Un selfie, ça ne me parle pas. Égo-portrait, on comprend de quoi il est question. On est souvent étonné du vocable intelligence artificielle. Si on appelait un téléphone intelligent notre téléphone intelligent, comme font les Québécois, peut-être qu'on serait moins choqué par ça. Alors j'aime bien le terme de la CNIL, il parle d'ordiphone. Je trouve ça assez sympathique. D'où l'importance de la langue pour ne pas être trompé. Donc c'est tout ça, Ellul, c'est cette perspective-là. Ellul, c'est un autre facteur que je trouve extrêmement important. Quand Ellul écrit en 1945 un article, il dit Hitler a gagné, faut le faire, hein, et en juin 1945, il écrit cela. C'est l'idée que la mobilisation totale, l'exploitation des individus, la violence, hein, est présente dans le système technicien, qu'il soit nazi, communiste ou capitaliste, parce qu'au fond, les trois sont des productivistes, ont un rapport au monde d'exploitation et la technique et les unit dans leur mode de fonctionnement. D'ailleurs, la quête de chacun des systèmes, c'est d'être le plus performant possible. Bon. Et donc, il n'est pas en train de nier qu'il y ait des différences de doctrine, mais au fond, c'est pas ça le plus important. Donc, vous voyez, ce décalage du regard, il est extrêmement intéressant. Et pour peut-être vous convaincre de ce point-là, prenez le terme ressources humaines, que je trouve ignoble. Prenez le terme matériaux humains, je le trouve aussi ignoble. Et matériaux humains renvoie au vocable nazi pour ressources humaines, qui est le vocable du capitalisme. Donc oui, dans les deux cas, c'est un rapport à l'homme qui est un rapport d'exploitation. Donc là, on oublie la dignité de l'individu, on le réduit à un moyen. Et derrière, il y a un arrière-fond du darwinisme social, de la lutte du plus fort, de la concurrence. Bon. Donc, et il me sert à voir tout ça pour tout vous dire.
Il y a un point que vous avez évoqué sur lequel j'aimerais bien revenir. Vous parlez de l'autonomie du système technique. Et c'est vrai que quand on parle d'IA, mais pas que, je pense par exemple dans le domaine militaire où on se dit bah, finalement, si nous on ne le fait pas, les Chinois vont le faire, les Américains vont le faire ou quelques autres pays. La question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine réalité derrière ça, dans le sens où, en tout cas au plan géopolitique mondial, aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation supra-étatique, supranationale qui permettrait de réguler un peu toutes ces questions-là, si on parle de l'intelligence artificielle, de décider d'une politique commune. Et donc, on a des systèmes culturels, des gouvernements différents, avec des trajectoires différentes, des points de départ différents. Et si je prends l'exemple militaire, où, par exemple en France, où on a toujours dit que bah, il faut absolument qu'il y ait un homme dans la boucle, il n'y aura pas de drone complètement autonome, même si ça devenait techniquement possible. Et si demain, ça s'était développé en Russie, en Chine. On imagine que sur le champ de bataille, la contrainte d'efficacité, elle viendrait un petit peu percuter la contrainte éthique, ou en tout cas les règles qu'on s'est données. Comment on gère ça, cette question de finalement, si moi je le fais, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Bien évidemment qu'il y a, on s'auto-percède de ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de réalité quand même derrière ça?
Il y a une part de réalité. Mais d'ailleurs, je reviens à Ellul quand il nous dit c'est la religion des faits. En gros, dans le thème technicien, nous nous soumettons au poids du réel. On pourrait dire avec Thatcher, il n'y a pas d'alternative. C'est pas facile, et c'est notamment audible pour nous, hommes postmodernes, l'idée qu'il puisse avoir des valeurs autres que l'efficacité. En gros, qu'on puisse dire non et accepter de ne pas être efficace, voire de mourir d'ailleurs, parce qu'on a des valeurs fondamentales. C'est très difficile, et c'est pour ça qu'il nous faut du droit mu par des valeurs, qu'il nous faut des instances internationales, sans quoi c'est extrêmement difficile. Mais on y est arrivé avec les armes nucléaires, dans une certaine mesure. Le droit international, c'est un idéal qu'on a depuis Emmanuel Kant. L'idée qu'on puisse réguler les comportements, alors déjà au sein des États par le droit, le comportement des individus, mais entre les États également par le droit. Donc on peut le faire, mais il faut avoir une volonté extrêmement forte, sans quoi nous allons vivre, c'est déjà commencé, me semble-t-il, dans une barbarie technicienne. Quand vous évoquez l'éthique, la politique et le technico-scientifique, en fait, je pense à partir des catégories d'Henri Comte-Sponville. Mais ça me fait beaucoup à penser. Ça m'intéresse, j'avais écrit un article dans The Conversation, « Le coronavirus est-il moral ?» où je révoque ces catégories-là. Et après, la question qui se pose, c'est quel ordre gouverne l'autre ? Et si c'est l'ordre du bas, l'ordre technico-scientifique, qui gouverne les autres, alors nous vivons dans une barbarie technico-scientifique. Je reviens sur le communisme et le nazisme, qui, tous les deux, prétendaient être des sciences et donc appliquer des lois scientifiques. Et donc, ils ont restructuré, dans les deux cas, le droit, la morale, à partir des lois scientifiques qui étaient, d'un côté, les lois de la race, de l'autre, les lois de l'histoire. On reconnaît de quel régime politique on parle. La loi de la race, loi de l'histoire, c'est le vocabulaire de Hannah Arendt. Et donc, ça pose un souci fondamental. Est-ce qu'on va vivre dans un état de barbarie ? De barbarie. C'est pour ça que c'est compliqué dans un monde extrêmement polarisé, parce qu'il faut être d'accord sur des valeurs fondamentales. Pour le coup, je sais que la Chine a quelques soucis à reconnaître les droits de l'homme et du citoyen. Donc oui, il nous faut des textes fondamentaux. Mais ce problème-là, il s'est déjà posé. Je pense à John Rawls. En France, on connaît peu, alors que Théorie de la justice de John Rawls, 71, c'est le livre de philosophie le plus commenté du XXe siècle. Rien que ça. Mais c'est vrai qu'en France, on passe un peu à côté. En gros, c'est un philosophe qui veut lutter contre l'utilitarisme, qui était la philosophie de l'époque, la philosophie morale de l'époque, la philosophie très anglo-saxonne, qui dit qu'on va juger une action en fonction de son impact et de savoir si elle produit le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Voilà comment on juge une action. Donc vous voyez, là, on enlève les grands principes, on n'est pas du côté de la morale kantienne, universelle, non, on va être très pragmatique, très simple. Sauf que dit John Rawls, qui est un soldat et qui a fait la Seconde Guerre mondiale, surtout après la Seconde Guerre mondiale, ça ne peut plus tenir ça. Il faut des droits fondamentaux. Sinon, on peut s'autoriser à supprimer, 1% de la population si ça produit un bonheur extraordinaire pour le plus grand nombre. Et ce que dit John Rawls, c'est que non, il faut protéger l'individu avec des droits fondamentaux, inaliénables. Et donc là, me semble-t-il que considérer qu'il y a des droits fondamentaux sur lesquels on ne transige pas, on ne discute pas, je pense que je ne sais pas si c'est possible, c'est même pas ma question, c'est qu'il faut le faire. C'est fondamental, il faut se donner corps et âme pour arriver à cela. Et puis j'ai envie de vous dire que même si les Chinois produisent des IA qui font du mal à leur population, on n'est pas obligé de faire pareil. Et de deux, on peut essayer de lutter au nom de l'humanité, au nom de l'universel. On est quand même le pays de Valmy, de Danton, de Robespierre, de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen. J'espère qu'on peut retrouver ces grandes valeurs-là, parce que sans quoi on est perdu. Comment notre humanité est perdue ? Un mot là-dessus, quand même. Henry Kissinger disait, très bon article dans The Atlantic, comment les lumières sont en train de s'éteindre. La civilisation des Lumières, à cause de l'IA, sont en train de s'éteindre. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de laisser un héritage pareil s'effondrer, sans quoi on ouvre les portes à un monde qui est effrayant.
J'aimerais revenir sur une analogie que vous faites dans votre livre. vous, vous comparez l'impact de l'IA à celui de l'imprimerie. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et peut-être aussi expliquer pourquoi, selon vous, cette révolution est au moins aussi significative que l'imprimerie?
Oui, en la matière, je reprenais notamment quelques citations, notamment de PDG de Google. Tout d'un coup, je vais écorcher son nom, mais c'est pas Sunshine, mais je vais écorcher son nom, qui m'excuse. Il faut voir que dès qu'il y a une révolution technique extrêmement forte, ça change la société. Prenez l'imprimerie, ça a fait s'effondrer la société d'alors. Alors nous, on est ravis parce qu'on est les héritiers de cet effondrement-là, mais j'imagine que la société féodale et l'Église catholique, je ne sais pas si elle est aussi ravie que cela. Pourquoi je vous dis cela? C'est pas pour prendre position pour la société féodale et l'Église catholique à tout pouvoir, mais c'est l'idée qu'il faut reconnaître que lorsque vous avez une révolution technique extrêmement forte, ça casse la société. Mais d'ailleurs, même Marx le dit, c'est une citation célèbre de Marx. Alors de mémoire, quand il parle du moulin à vent, ça vous donne la société avec le suzerain, en société féodale, et en gros, le moulin à vapeur, pardon, ça vous donne la société avec le capitalisme industriel. D'ailleurs, dans mon livre, je continue la citation en disant, l'intelligence artificielle, ça vous donne le capitalisme du CIPCOG, peut-être qu'on y reviendra, mais en gros, un capitalisme qui a besoin de produire des individus diminués, CIPCOG pour Cybernetic Cognition, concept que j'oppose à Cyborg pour Cybernetic Organism, pour en gros un être diminué. Et quand vous avez une révolution technique aussi forte, ça bouleverse tout. Bernard Stiegler l'évoquait lui aussi, quand dans son excellent ouvrage, dans la disruption, comment ne pas devenir fou, nous dit une société, une époque, c'est ce qui se constitue autour d'un système technique. Et aujourd'hui d'ailleurs, on parle de disruption, c'est-à-dire le but c'est de casser, pas d'innover, c'est de casser ce qui se passe. Mais comme on casse, on casse, on casse, la société n'a plus le temps. Le temps de la société est plus lent que le temps de l'évolution technique, qui s'est accéléré d'ailleurs avec l'IA. Et donc, on n'a plus le temps de restructurer des institutions, des relations sociales, des habitudes autour des systèmes techniques. Et donc, ça bouleverse tout. Et là, il faut voir, mais tout de même, j'ai l'impression que nos contemporains n'ont toujours pas pris acte de ce qui vient de se passer avec l'IA. On produit des systèmes capables d'apprendre, capables de mimer la conscience humaine. Des systèmes qui, s'ils ne sont pas conscients, donnent l'apparence de la conscience. Les individus vont croire que c'est conscient. Bon, ben, c'est fondamental. Mais là, on a quelque chose qui est mais, totalement fondamental. Donc, l'imprimerie à côté, si j'ose dire, c'est peanuts. C'est vraiment pas grand-chose. On est entré dans une nouvelle civilisation. Non, je ne fais qu'être d'accord avec de nombreuses prises de parole en la matière. D'ailleurs, PG de Google, j'y reviens, disait, prenez l'imprimerie, l'électricité, l'agriculture. L'IA, c'est encore plus fort que ça. On est sur quelque chose de fondamental. Ça bouleverse tous les aspects de nos existences. Il suffit de regarder ce qu'était le monde il y a encore allez, 3-4 ans. Et dans 5-10 ans, regardez là, on commence à avoir des robots humanoïdes qui devraient arriver dans tous les foyers. Ça coûte 20 000 euros, un robot humanoïde. Hein. Et ça peut faire sourire. Vous savez, dans les années 90, si on nous avait dit que nous aurions tous désormais un smartphone dans la poche avec ces possibilités-là, avec ChatGPT, avec Internet haut débit, on nous aurait regardé avec des grands yeux. Là, on est en train de bouleverser la société. Et vous savez, je ne suis pas technophobe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois les études sur les effets négatifs. Et donc, je suis très inquiet de ce qui se passe parce qu'en l'état, il faut se rappeler que ces meilleures IA ne sont pas entre les mains de services publics, mais d'entreprises privées qui sont prêtes à tout pour faire de l'argent, notamment détruire l'environnement. Genre, Microsoft avait dit qu'ils allaient être neutres en carbone d'ici 2030. Bon, de 2019 à 2020, ils ont augmenté leur émission de carbone de 48%. Google, c'est pareil. 48%, je ne sais plus, c'est pour Google ou Microsoft. Mais en gros, bon, là, en termes d'émissions de CO2, c'est en train d'exploser. L'ancien PDG de Google, cette fois, Eric Schmidt, disait, on n'en a rien à faire des objectifs environnementaux. De toute façon, on ne les atteindra pas. Donc, allons-y, lançons-nous dans les centres de données à outrance. Donc là, on est face à un bouleversement de notre environnement, de notre environnement social, de nos esprits par des acteurs privés qui ont un pouvoir démiurgique qui m'inquiète parce que là, les États sont bouleversés. J'ai vu récemment que Microsoft aura bientôt son objectif en 2025, 1,8 million de GPU, de cartes graphiques, quand Stanford en a 300, je crois, une chose comme ça, dans la presse. Ça veut dire que bon, ça coûte 30 000 euros par tête, enfin, par tête de cartes graphiques. Quand Stanford n'a pas les moyens, on parle de Stanford, là, on parle des meilleures universités du monde. Les acteurs privés, désormais, c'est eux qui ont les supercalculateurs, c'est eux qui ont la puissance. C'est assez inquiétant parce que c'est entre les mains de quelques individus. On a vu Elon Musk, son poids dans la campagne et le poids qu'il va avoir dans notre avenir. J'ai pas voté pour Elon Musk. Même les États-Unis n'ont pas voté pour lui, dans le sens où c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la technique qui est en train de défaire les États. C'est assez inquiétant.
Et justement, pour poursuivre par rapport à ça, dans votre livre, vous faites une autre comparaison, où, et vous l'avez mentionné, où à l'époque du Moyen Âge, c'était la religion qui était qui permettait d'expliquer le monde. Bon, vous dites que l'IA pourrait être, ou s'annonce en tout cas comme la force explicative de notre temps. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu là-dessus et préciser un terme que vous utilisez qui est celui de dataïsme?
Alors, dataïsme, je reprends ça, c'était un David Brooke, c'est un article dans le New York Times de 2013 qui nous dit que désormais la religion de l'Occident, donc Occident postmoderne, déchristianisé et autres, c'est le dataïsme, c'est la religion des données. Il faut voir que pour un homme du Moyen Âge, c'est compliqué de se remettre dans la peau d'un homme du Moyen Âge, mais le monde n'est pas le fait de la matière froide, mécaniste. Dieu est partout. La chair du monde est divine. Ça explique tout. Dieu, ça permet de tout expliquer. Puis si on prend l'évangile au sérieux, celui qui pêche par esprit aura déjà péché. Donc j'imagine qu'un homme du Moyen-Âge, qui est en tout cas un homme religieux, pieux, chrétien, pense même que ses propres pensées sont épiées par Dieu. Donc il faut vraiment, c'est compliqué à imaginer pour nous aujourd'hui, mais Dieu est partout. Bon. Les fêtes religieuses rythment la vie des personnes dans la journée, dans le temps. Bon, c'est total, c'est tout à fait total. Aujourd'hui, l'IA prend ce poids-là. Même si on ne se rend pas compte que c'est l'IA, mais quand vous êtes un adolescent aujourd'hui, 30% des adolescents aux États-Unis, études du Pew Research Center de décembre 2023, sont quasiment constamment connectés aux réseaux sociaux. Bon, c'est-à-dire que là, c'est votre vie est faite par les écrans. C'est parce que vous voyez dedans. Vous êtes accro, vous n'arrivez pas à vous détacher de ça, ça fait vos relations sociales, enfin le peu que vous en avez, c'est bon, ça fait la totalité de votre existence. D'ailleurs, je dis souvent que si c'était le fait d'acteurs politiques ou religieux, si les GAFAM étaient des acteurs politiques ou religieux, on dirait qu'ils font quand même beaucoup de politique aujourd'hui, voire de la religion, on va y revenir, eh bien, on les empêcherait. Mais comme c'est un des acteurs économiques, on laisse faire. Une telle prise en main des consciences, une telle mise au pas de la totalité du corps social par un algorithme, c'est terrible. Surtout qu'il faut regarder ce qui se passe au niveau des plus jeunes. Et donc, je fais l'analogie par rapport au Moyen Âge, c'est que désormais, nous expliquons la totalité du réel avec l'IA. Regardez la science. Alors, on va dire c'est merveilleux. Là, j'en conviens. Mais désormais, les grandes découvertes scientifiques se passent par cela. Denis Hassabis, je j'écorche son prénom, mais Hassabis, qui est le cofondateur de DeepMind. La startup a été rachetée par Google, qui a créé les meilleurs IA pour battre les joueurs de Go. Ça, c'est là le plus connu, pour battre les meilleurs joueurs de StarCraft. Il a reçu un prix Nobel cette année, pour notamment avoir co-développé l'IA AlphaFold 3 maintenant, mais c'était AlphaFold 2 à l'époque, capable de déterminer les structures des protéines. Bon, je ne vais pas parler des détails, mais en gros, pour comprendre le monde, pour comprendre les individus, pour comprendre le social. Ça passe par l'IA. Donc je pense que là, toutes les caractéristiques qu'on attribue au Dieu judéo-chrétien, désormais, elles conviennent, sont celles de l'IA. La capacité, alors potentiellement la promesse de ne pas nous faire mourir, avoir une vie éternelle, la capacité d'absorber toute l'information, la capacité d'avoir une vision qui dépasse l'homme, c'est déjà le cas d'ailleurs. Quand on prend le jeu de Go, StarCraft, et la liste est vraiment longue, hein, AlphaFold, c'est pareil, dans le quoi scientifique, c'est qu'à chaque fois, l'IA contredit les... Enfin, en tout cas... Très souvent, l'IA contredit des théories humaines et dépasse ce que nous, on aurait pu imaginer. Donc là, on est face à une forme d'intelligence qui va bien au-delà de nos capacités. Et c'est tellement vrai que nous avons Lewandowski, qui était un ancien Google, un peu sulfuré, il a créé une église, d'ailleurs, la religion, la voie du futur, qui divinise l'IA. Ça a des échos avec Auguste Comte, au XIXe siècle, qui avait créé des églises positivistes, avec cette idée que avec les sciences matérialiste, froide, mécaniste, on va pouvoir expliquer la totalité du réel. Auguste Comte, c'est le père du terme de sociologie. En gros, c'est une physique sociale. Oui, j'ai cette idée très scientiste que désormais, les données, l'univers est écrit en données, plus seulement en mathématiques, comme on pourrait le dire avec, je sais pas, des Kepler, par exemple. Et donc, avec de l'IA, on va être capable de comprendre la totalité du réel. Donc là, on est face à quelque chose qui est vraiment, qui est de l'ordre du pouvoir du divin. Et puis, j'avais évoqué tout à l'heure cette question de du monde postmoderne. On n'a plus de grands récits. La nature ayant horreur du vide, l'IA s'annonce comme étant le grand récit de notre temps, la grande théodicée, le grand discours divin qui explique tout. Et comme on a décapité les ordres, l'ordre du divin, l'ordre de la morale, l'ordre du politique, eh bien désormais, c'est l'ordre technico-scientifique qui produit ses propres valeurs, qui produit sa propre religiosité, comme la phrase d'Ellul qui est célèbre, c'est, enfin, en gros, tout d'un coup, bon, je dis ça, je ne suis pas capable de la dire par cœur. Le problème, ce n'est pas la technique, c'est le sacré qu'on a transféré à la technique. On a sacralisé la technique. D'où le fait que je me permette d'évoquer, alors je ne suis pas le seul, hein, mais évoquer une sorte de religiosité. Et puis, je terminerai avec ça, mais c'était Hans Jonas. Ou c'est Lévinas, mon Dieu, je vais dire une bêtise. Vous savez, c'est ce livre terrible, mais Dieu après Auschwitz, il y a l'idée que Dieu est impuissant. La preuve, Auschwitz a été possible. Et donc, même pour le plus croyant d'entre nous, il y a l'idée que, bon, il faut acter le fait que Dieu n'est pas présent dans le monde. Et donc, c'est ce retrait de Dieu. Et puis, quand vous n'êtes pas croyant, ben, au moins, vous n'avez pas le problème. Mais quand vous avez, en gros, le monde est laissé aux hommes, eh bien, il faut bien remplir les âmes. Voilà. Parce que remplir les estomacs, c'est une chose, mais l'aspiration, la réponse aux questions fondamentales que se posent les individus, peu importe leur culture, de la vie et la mort, hein, pour ces petites questions-là qui se posent à chacun d'entre nous, eh bien, il faut bien y répondre. Il faut bien y répondre. Et comme les institutions qui permettaient de répondre à ces questions-là se sont cassées la gueule, on a évoqué un communisme, un nazisme, christianisme et autres, eh bien, désormais, la technique nous offre des réponses. Et puis, c'est éblouissant, l'IA. Enfin, quand vous discutez avec GPT-4, c'est éblouissant. Et puis, on parle de GPT-4, attendons GPT-5-6, donc attendons 3-5 ans. Et on est sur des échelles de temps qui sont extrêmement restreintes. On va être complètement ébloui par par la puissance technique, qui ressemble à une puissance démiurgique, me semble-t-il.
Un domaine dans lequel l'IA progresse assez rapidement, c'est celui de, on va dire, de la créativité, l'art, la musique, la littérature. Quel est votre regard justement sur l'impact de l'IA sur les industries créatives et si on essaye de se projeter à moyen ou long terme, quelle pourrait être la façon dont ces technologies d'IA vont impacter la créativité humaine? Si ben finalement les modèles type ChatGPT, DALL-E et tous les autres qui vont suivre sont capables à minima de mimiquer la créativité humaine, voire enfin, développer une autre forme de créativité.
Je pense que l'impact, il va être tout à fait cataclysmique. J'ai coécrit un article avec Manon Châtel dans The Conversation, donc un média où les universitaires peuvent écrire avec des journalistes spécialisés qui vous aident à reformuler le propos lorsque c'est pas clair ou à clarifier les choses. Donc c'est vraiment un média que j'adore. On a publié ça il n'y a pas longtemps. C'est sur IA et production audiovisuelle. Je sais plus comment on a intitulé ça, mais vers un remplacement ou autre. Bah, c'est cataclysmique. Tout à fait cataclysmique. Désormais, alors l'IA Sora, je vais dans l'actualité de ce matin. L'idée que, enfin, l'IA Sora, donc vous savez, celle d'OpenAI qui permet de créer des vidéos, là, ça a fuité pendant quelques heures. Bon, prenons l'IA Sora, allons-y. Donc cette IA Sora permet de créer des vidéos avec un simple prompt. Tyler Perry, qui est un acteur, réalisateur, scénariste qui pèse plus d'un milliard de dollars, lorsqu'il a vu en janvier 2024 les possibilités de Sora, il a arrêté son projet à 800 millions d'extension de studio de cinéma. Voilà. Parce qu'il dit, bah, c'est fini. C'est tout simple. Je n'ai pas besoin de dépenser des millions. Si je veux créer une vidéo d'individu sur Mars, une simple instruction, un simple prompt me permet d'obtenir cela. C'est aussi simple que cela. Voilà. Il faut voir un autre facteur, c'est que GPT-4, et on parle que de GPT-4, qui n'est même pas une IA de développement, je veux dire, de recherche, hein, c'est pour le grand public. Eh bien, GPT-4, sur le test de Torrens, qui est un test de créativité qu'on veut passer aux humains depuis très longtemps, GPT-4 fait partie des humains les plus créatifs, des 1%, pardon, des humains les plus créatifs. Alors que GPT-3 ne faisait pas mieux qu'un humain, bon, on ne discutait même pas de GPT-3. GPT-4, il arrive partie des 1% des humains les plus créatifs. Donc là, on est face à des systèmes d'une très haute créativité. Et vous savez, dès que c'est facile, c'est pas très bon pour l'homme. Souvent, on nous dit que l'IA, ça nous enlèvera les tâches ennuyeuses. C'est vrai que faire du sac de frappe, c'est ennuyeux. Faire ses gammes au piano, c'est extrêmement ennuyeux. Lire des longs textes, de gros livres un peu barbants, ça peut être extrêmement ennuyeux face à une vidéo TikTok. Bon, là, vous allez me dire, je pousse un peu le bouchon, mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on fait ses gammes, au sens propre comme figuré, on développe beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Et donc là, face à l'humanité qui est assistée par une IA, donc qui va avoir du mal à trouver l'envie d'avoir envie, comme disait le grand Johnny, eh bien, ça va être compliqué de développer la créativité. Ça tombe pas du ciel, la créativité. La créativité, c'est le fruit de milliers d'heures de travail pour potentiellement développer une capacité créative dans un domaine. Et donc, déjà, cette capacité à se donner corps et âme de motivation, de travail, elle est anémiée par le fait que ces algorithmes, ces écrans nous agitent et nous donne pas envie d'œuvrer de cette manière-là. Et puis face à nous, on est face à des choses assez inquiétantes. J'aime beaucoup actuellement des exemples où vous avez des personnes qui font des réalisations artistiques réelles et on les refuse parce qu'on considère que c'est de l'IA. C'était le cas d'une dame, Suzy Daugherty, en Australie. Il y a une exposition Gucci et là, elle prend des mannequins habillés en Gucci, son fils de 18 ans, et elle prend une photo. La photo est extraordinaire, vraiment, il faut la voir, elle est très très bonne. Et quand on prend cette photo à un concours de photos, on lui refuse car on lui dit que ça a été fait par une IA. Il y a plusieurs cas comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez au sommet de votre art, ou alors vous avez une idée extraordinaire d'un moment de création, un moment absolu, eh bien, on vous ramène à une machine et on vous dit qu'on ne vous croit pas, on pense que vous avez triché. C'est une humiliation terrible pour l'homme. Je dis souvent que l'IA est une humiliation pour l'homme parce que. Ce qui restait à l'homme, c'est de croire qu'il était la seule entité en ce bas monde à être intelligente, capable du beau, capable de création. Désormais, c'est plus le cas. Là, il va falloir redéfinir l'homme autrement. Prenez l'IA, les IA de création de vidéos. Voyez, prenez donc Sora, mais c'est pas la seule. On vous disait, oui, mais c'est capable de faire des vidéos que de 30 secondes, voire 1 minute. On pourra pas avec ça faire des films, choses comme ça. Et pourtant, alors je sais pas quand c'est sorti ça, mais bon, peut-être en mars de cette année. Vous avez un clip de musique que je trouve assez intéressant d'ailleurs, The Hardest Part du groupe Washed Out, bon, en anglais dans ce qu'il est, vous trouvez ça sur YouTube. Et donc, on voit un clip de musique qui est assez extraordinaire de 4 minutes, fait par cette IA-là. Donc, en fait, c'est l'individu a rassemblé plus de 80 vidéos, je crois, différentes. Et donc, ça y est, en fait, c'est très possible. T'as juste ça fait une publicité avec ça. Le PDG de Pixar DreamWorks, bon, ceux qui ont fait. Ah, tout d'un coup, j'ai oublié le nom de ce. Bon, un des deux, je sais plus, PDG de ces deux grandes entreprises, il disait, aujourd'hui, pour refaire Toy Story, il me faudrait 90% de temps en moins, de coûts en moins, avec de l'IA. Alors, vous allez me dire, tant mieux, n'importe qui pourra faire son film à la maison. Alors, ça, c'est vrai. Sauf que, comme dirait Ellul, quand vous donnez à n'importe quel idiot un caméscope, eh bien, vous allez produire des films de vacances de piètre qualité. Il suffit de voir ce qu'on voit sur Instagram où tout le monde se prend pour un photographe. Pourquoi? C'est parce que faire de la photographie, ça demande un peu de travail. Réfléchir les angles, les photos, il faut les lire un peu de théorie, il faut s'intéresser aussi aux grands photographes. Ça demande un petit peu de temps. Mais là, aujourd'hui, comme n'importe qui considère qu'il est un individu, une star à sa façon, avec des outils techniques qui facilitent aussi les choses, il faut bien le dire, les filtres et tout ça, les corrections d'images, eh bien, c'est compliqué. En termes de créativité, d'aller faire ces gammes. Parce qu'on est face à des systèmes techniciens qui sont en train de bouleverser une industrie. N'importe qui. Il y a un individu, un Canadien, il a fait plus de 100 livres différents. Des livres pour enfants, je ne sais plus, mais bon, choses comme ça. Vous savez, il y a des personnes qui. Enfin, Amazon est inondé de livres produits par IA. Bon, on est vraiment très, très loin de Proust. Parce qu'il est très difficile d'entendre qu'il faille passer des années à lire, à travailler. Et après des années à écrire, à retravailler ses phrases. Oui, j'ai une grande passion pour Francis Cabrel. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur la philosophie chez Cabrel. Ce que j'aime chez cet homme-là, moi, ce qui m'a appris, c'est le travail et le temps. En gros, Cabrel, c'est des chansons qui met des mois, surtout des années à écrire. Alors, je sais plus laquelle, d'un coup, ça m'échappe, mais il y a une chanson, il a mis 12 ans à la finaliser. Parce que le mot ne convient pas, ça sonne pas parfaitement. C'est comme ça qu'on produit des grandes œuvres d'art. Quand on voit des tableaux de grands maîtres, ça a son prix des années, voire des années de travail. Des années de travail. Et donc ça, je crois que nous avons de plus en plus de mal à entendre le fait qu'il soit nécessaire de passer des années pour produire une œuvre à l'heure de la facilité et à l'heure où l'IA est capable de faire des choses extraordinaires. C'est dans Nature que c'était publié ça récemment, une grande revue états-unienne, académique, où on voit que, ça y est, les poèmes produits par IA sont indiscernables d'IA de poèmes produits par des êtres humains. Voilà ce que je pense. Alors, la créativité, quand même, dans le monde managérial, un mot que je trouve une étude dont on a beaucoup parlé, c'est l'étude du PCG qui est sortie en décembre 2023, en septembre 2023, pardon. C'était l'impact de ChatGPT sur les consultants. Bon, l'étude est déjà obsolète, parce que c'était GPT-4, maintenant on est passé à 4.0, mais obsolète peut-être, mais il y a quand même des éléments intéressants sur la créativité. L'étude montrait que si ça augmente la créativité de 40% chez les individus, ça fait baisser la créativité au niveau collectif. Mais aussi parce que quand vous utilisez GPT-4, notre entreprise va utiliser GPT-4 également. Et donc, y a une perte de créativité. Et puis, les consultants qui utilisent GPT-4 depuis plus de 6 mois disaient, on a bien l'impression d'être moins bon. Mais vous savez, il suffit de revenir à Aristote, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est aussi bête que ça. Plus vous courez longtemps, plus vous êtes capable de courir longtemps. Plus vous exercez votre esprit en faisant des mathématiques, plus vous êtes capable de faire des mathématiques. Bon, c'est aussi bête que ça. On pourrait résumer et s'éviter de lire des milliers d'articles académiques en écoutant Aristote. Pourquoi je dis ça? C'est que moins vous faites l'effort d'être créatif, moins vous le serez. Et une autre étude plus récente qui est aussi bonne, là, du MIT, montrait que il y a des activités, des tâches où l'IA fait mieux que l'homme. Il y a des activités où l'homme fait mieux que l'IA. Il y a des activités où la combinaison homme-IA sera moins bonne ou meilleure. Il faut rentrer dans une granulométrie très fine pour trouver dans quelle configuration ça rentre. C'est mieux ou pas. Moi, ce qui m'inquiète, vraiment pour tout vous avouer, c'est que la facilité de l'IA va rendre l'homme feignant, tout simplement. Ça, c'est ma grande inquiétude. C'est qu'on va perdre le travail de long terme. Un dernier mot là-dessus. Peut-être 2 mots. Il y a Nicolas Carr en 2008 qui avait écrit cet ouvrage Est-ce que Google nous rend stupide? Il a 50 ans en 2008, donc autant dire qu'il n'a pas grandi avec TikTok. C'est un intellectuel de premier plan. Et il dit, mais je n'arrive plus à me concentrer et à lire de gros livres. Et ses amis, c'est pareil. On est en 2008. Qu'est-ce que dirait un jeune de 15 ans aujourd'hui qui a grandi avec les réseaux sociaux? Ben, on sait ce qu'ils disent, hein. On a des études là-dessus. Leur capacité de concentration a été détruite dans leur créativité, mais quelle créativité? Et un dernier point, on évoque souvent la créativité, donc la production, mais si on s'intéressait à la réception, est-ce que désormais nous avons encore une écoute, une lecture extrêmement aiguisée pour accueillir la créativité d'une grande œuvre? Il suffit de voir la production de masse de Netflix pour voir qu'on produit en masse des choses qui sont de mauvaise qualité, mais suffisamment bonnes pour que les individus restent accros à cela. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder la lecture de la réception. Et je pense que nous avons une réception de mauvaise qualité parce que, simple, comment apprécier un livre si on n'a pas été un lecteur? Comment apprécier une belle photo si on n'a pas été, si on a, notre sens esthétique n'a pas été dressé? C'est pas possible. Donc on va produire des choses très médiocres, mais en même temps avec un lectorat, une réception médiocre. Donc, vous voyez, de la production à la consommation, dans les deux cas, l'IA est présente. Et je vois, dans les deux cas, une diminution de nos sens esthétiques dans la production, dans la création et dans la réception.
En préparant l'épisode, j'ai beaucoup pensé à un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle Homo Confort, d'un anthropologue italien que vous connaissez peut-être, qui justement s'interroge et s'intéresse beaucoup à l'impact que cette notion de confort et la recherche permanente du confort dans nos sociétés a sur nos capacités cognitives, nos capacités physiques. Et le fait que si on regarde par exemple sur la hausse partout, en tout cas en Occident, et pas que d'ailleurs, du surpoids, de l'obésité, de la capacité physique, c'est pas juste au niveau cognitif. Est-ce que finalement l'IA, c'est pas juste une continuation de ça, peut-être survitaminée avec des outils encore plus puissants, mais qui répondent d'une certaine façon à notre quête de confort, d'en faire le moins possible, que ça soit facile, vous disiez faire les gammes. En fait, il y a quelqu'un qui fait les gammes pour nous d'une certaine façon. Et la question que j'avais, c'est comment on peut lutter contre ça ou essayer de rendre attrayant l'inconfort, la difficulté, le fait de pratiquer, de recommencer, enfin de se remettre à tisser plusieurs fois, de réapprendre la difficulté, d'échouer, de recommencer, parce que finalement c'est ça qui permet aussi d'apprendre, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde intellectuel. Ouais, j'ai un peu cette interrogation, comment on rend l'inconfort attrayant et on redonne un peu ce goût de l'effort. C'est pas un truc de vieux con de se dire l'effort c'est bien, mais comme vous disiez, si on pratique pas, si on ne fait pas, la créativité elle a tendance à baisser, on a tendance à niveler par le bas et pas par le haut.
C'est la question centrale de notre époque que vous posez, c'est comment on rend désirable cela. Vous savez, J'essaie d'inscrire ma pensée dans le réel. C'est ça que d'ailleurs je parle de capital neuronal pour être en lien avec la pensée de Bourdieu sur le capital économique et le capital culturel. Bon, je mets ça de côté peut-être, mais c'est l'idée que il existe des archipels. Je prends Jérôme Fourquet, hein, l'archipel français. Ça veut dire que il me semble qu'au sein de l'élite, on continue à dresser. Là, je suis très nietzschéen, je parle pas d'éducation, mais de dressage. Un homme qui est dressé par le, qu'il faut dresser par le savoir. Bon. Et donc, malheureusement, l'éducation nationale, si elle continue sa trajectoire de nivellement par le bas et d'écran de partout, on ne va pas permettre l'émancipation de tous. Et malheureusement, ça que je parle de noblesse de l'algorithme, c'est que Arthur Mensch disait qu'il y a 1000 personnes dans le bas monde à même de créer ses meilleures IA. Donc, la véritable élite, elle, continue à prendre soin du corps et de l'esprit de leurs enfants. Et donc, culture, sport, tout cela. J'ai discuté avec Yves-Marie, qui est un essayiste extraordinaire, mais en même temps un militant associatif qui a cofondé Lève les yeux, l'association qui milite contre les méfaits des écrans, qui fait des formations dans les écoles, et donc beaucoup notamment dans les quartiers populaires. Et un jour, Yves me disait qu'il discute avec une adolescente qui vient d'un milieu plus aisé, qui des activités sportives et culturelles, et qui n'est pas accro à son smartphone, je sais même plus s'il en a un d'ailleurs. Bon. Et il m'avait dit, mais j'avais oublié qu'à l'adolescence, ça pouvait être ça. Parce que la destruction de nos capacités cognitives, elle est réelle. Tiens, je vous parle d'études, là. Il y a des chiffres extrêmement clairs là-dessus, sur la capacité de concentration, des relations sociales et tout cela. Et donc, comment rendre ça désirable? Face à des systèmes techniques comme TikTok, c'est impossible. Concrètement, face à TikTok, c'est compliqué de rendre quelque chose de désirable. Une fois qu'un cerveau a été piraté, détruit dans ses capacités de concentration, qui met sa dose de dopamine avec des choses simples, là, à ce moment-là, il faut une désintoxication extrêmement, extrêmement virulente. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a que des milieux sociaux plus que favorisés, culturellement et économiquement. Peut-être plus culturellement d'ailleurs. Enfin, avec un milieu culturel, je ne sais pas typiquement des profs du secondaire, donc un haut niveau culturel, mais pas un haut niveau capital économique très fort, peuvent continuer, ils le font déjà souvent, d'éduquer leurs enfants dans le savoir, dans les livres et dans tout cela. Donc, comment on rend ça désirable? On ne pourra pas lutter contre des systèmes hyper addictifs. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est là, on rentre dans le nouveau monde. Qui est quelque part décrit par le film Her de Spike Jonze avec Twombly, là, le personnage de Joaquin Phoenix qui tombe amoureux de son IA, c'est qu'on va avoir des IA qui nous parlent avec une voix dans l'oreille, ou avec des lunettes de réalité augmentée, on verra notre IA présente à côté de nous. C'est déjà commencé avec Replica, vous savez, on peut parler, on peut même discuter avec, et il y a 1 million de personnes qui ont des relations amoureuses avec ces trucs-là. Et donc là, comment on fait pour lutter contre ça? Comment on fait pour rendre ça désirable? Le problème, c'est que le discours, il est conservateur en la matière. Parce que si vous êtes une perspective très, je vais dire, postmoderniste, la technologie, c'est super, la Silicon Valley, c'est merveilleux, les écrans, allons-y, pourquoi cadrer les choses? En fait, c'est que l'éducation, par essence, elle est conservatrice. Comme disait Hannah Arendt, l'éducation, c'est transmettre le monde, donc par essence, le passé, aux plus jeunes, pas pour qu'ils le répètent, mais pour qu'ils puissent déjà en être les héritiers pour aussi construire quelque chose. Là, face à cela, moi, je ne vois pas comment ne pas être conservateur, au sens où je vais rester avec Hannah Arendt, enfin son premier mari, Gunther Sanders. L'idée d'être conservateur, c'est de conserver le monde face à la destruction. Face à la destruction, pour lui, de la bombe atomique. Rappelons-nous Albert Camus dans son discours, parce qu'il reçoit le prix Nobel de littérature, il dit « Ma génération sait qu'elle ne refera pas le monde, mais à minima, essaie de faire en sorte qu'il ne se défasse pas. » Là, on est face à ça. Donc, pour rendre ça désirable, peut-être qu'en continuant à mettre en avant les études scientifiques sur les méfaits des écrans, des algorithmes, et de montrer que le mal-être, aussi la santé mentale, moitié des adolescents sont dans un état catastrophique à cause de tout ça, peut-être que, en fait, il suffit de montrer qu'avoir une vie qui ne soit pas absorbée par des écrans, il y avait une étude, pas une étude, c'est là, 10 jours sans smartphone, sans téléphone intelligent, pardon, et les anglicismes, ça reste. Qui dit, après cette étape-là, dans la presse, je voyais un adolescent qui disait, ah, mais en fait, on passe à côté de la vie. Ben oui, parce que se retrouver entre amis, dans le reportage de l'Interdit qui a été fait il y a quelques mois, qui était passionnant, sur les méfaits des écrans. C'est intéressant, on voit à un moment donné alors un couple assez aisé, qui habite à La Ciotat, une adolescente totalement accro aux écrans, on ne voit personne. Bon, comme beaucoup d'adolescents, les parents laissent faire parce qu'ils comprenaient, il faut être moderne justement. C'est-à-dire, c'est leur génération. C'est comme si, je sais pas, comme si l'alcoolisme c'était l'effet d'une génération. Ses parents, on va laisser nos jeunes boire à outrance. C'est complètement stupide. Bon. Et donc, on voit à un moment donné ses parents qui sortent des photos de leur jeunesse des fins des 80, 90 et qui dit, voilà, ben là, ça se rappelle des souvenirs. Des soirées, des sorties, etc. Et ils disent, mais cette génération-là, ils parlent devant leur adolescente, qu'est-ce qu'elle aura comme souvenir d'avoir passé des heures sur ces écrans-là? Et donc, peut-être en montrant que la vie est bonne, est intéressante et passionnante en dehors de tout cela, est-ce que ça pourra suffire? Peut-être que dans certains îlots de l'archipel français, et malheureusement, s'il n'y a pas l'État qui régule fortement pour empêcher que les acteurs de la vallée du Silicium ou Pékin avec TikTok continue de construire des systèmes addictifs et détruire la capacité cognitive de nos jeunes, addiction plus maladie mentale, ça devrait quand même suffire à nous faire réagir. Sans cela, je ne vois pas, pour tout vous dire. Je ne vois pas parce qu'il faut lutter. Vous savez, les parents ne peuvent pas lutter contre la société entière. Croire que les parents peuvent agir, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que là, c'est une société entière qui est un enfant. Si vous n'êtes pas dans l'hyper-élite, si vous protégez votre gamin des méfaits des écrans, souvent, j'aime rappeler, je crois que c'est une étude de l'ARCOM, hein, 50% des garçons de 12-13 ans ont du porno, c'est 30% des garçons de 11-12 ans, et c'est 30% des filles de 12-13 ans. Donc là aussi, donner un téléphone intelligent à votre enfant, c'est le laisser accéder à la pornographie. Apparemment, ça ne dérange personne, donc la moitié des mineurs en France consomment de ce type de contenu, ça ne dérange strictement personne. Et puis souvent, en fait, quand j'écoute de ça, en parlant un peu de ces sujets-là, mais bon, c'est le réel. Quand je discute de ça avec des gens de 50 ans, ça leur rappelle, oui, la cassette à caractère pornographique de Canal+, qu'ils allaient piquer par-ci, par-là. Oui, mais est-ce que nos jeunes, ils ont accès à des choses, en étant extrêmement jeunes, à des choses qui sont d'une violence, d'une pornographie qui n'est pas la même que cette industrie cinématographique d'il y a 40 ans. Et souvent, nos anciens n'arrivent pas à comprendre, mais enfin, c'est compliqué hein, d'imaginer une journée avec 3 heures de TikTok, 2 heures de Snapchat, 2 heures de télévision. Et là, pourquoi il faut que ce soit la société entière qui change. C'est que dans ce reportage de Zone Interdite, on voit une adolescente qui discute avec, par moment, hein, avec ses amis par message vocaux et autres. Et elle dit, mais quand on se voit en réel, et c'est rare, hein, je vous rappelle, je vous dis, alors, ça c'est un chiffre aux États-Unis, mais c'est 48 minutes par jour de voir des amis en réel. C'était 2h30 il y a 20 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ces adolescents? Ils sont sur leur téléphone. Donc en fait, ils ne se parlent pas vraiment. Et ça, cette adolescente-là, ce que je vois là, c'est ce que montrait Jen Twenge dans son livre fondamental sur où elle compare les différentes générations aux États-Unis depuis les baby boomers à aujourd'hui, sur tout un tas de caractéristiques. Bon. Et c'est de voir une jeune qui s'appelait Athéna, 13 ans, pareil, qui disait, mais quand on se voit en vrai, eh bien, en fait, on ne se parle pas. J'essaie de parler de mes problèmes à une amie, mais elle est sur son téléphone et elle me dit oui, voilà, il n'y a pas de rediscussion. Même un jeune qui voudrait voir ses amis, bah, c'est très compliqué parce que même quand il se voit, le téléphone est là et il fait écran. Aux relations humaines. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que l'hyper-élite dans des milieux protégés, dans des écoles qui font bien les choses, avec des parents qui réellement font bien les choses, qui peuvent faire quelque chose pour rendre désirable ça. Et pour rendre désirable le fait d'avoir des parents qui ne sont pas accros à leur téléphone, le fait d'avoir des livres à la maison, le fait de faire des activités culturelles, sportives avec les enfants. Déjà, donc, un, il faut avoir un niveau culturel pour pousser à faire cela, parce que prendre conscience que les écrans, c'est mauvais et autres, déjà, il faut avoir un niveau culturel. Malheureusement, c'est un constat que je vois. Hein. Et également, des possibilités économiques. Quand on est dans les quartiers nord de Marseille, dehors, c'est dangereux. Voire dedans, c'est dangereux. Je pense à cette pauvre cette étudiante d'expérience universitaire en droit, qui est chez elle et qui est tuée d'une balle dans la tête. Ouais. Donc, face à cela, c'est vrai que sortir dehors, c'est compliqué, c'est pas très désirable. Donc, on est face à un mouvement de société globale. Et donc, il est très difficile de sortir de ça. Très difficile.
Pour suivre le fil là, de cette discussion, dans votre livre, je crois, vous mentionnez l'urgence en fait de repenser le monde face à l'IA ou avec l'IA. Alors, on en a déjà parlé, mais si vous deviez dessiner quelques priorités pour développer une philosophie qui soit adaptée à cette nouvelle ère technologique, ce serait lesquelles?
Me semble-t-il qu'on a ce qu'il faut sous la main, pour tout vous dire. Quand on lit du Jacques Ellul, quand on lit du Günther Sanders, ou des philosophes Ivan Illich, des philosophes critiques de la technique, parce que ces gens-là, ils ont vu la société industrielle. Souvent, ils naissent au début du XXe siècle. Alors, surtout Jacques Ellul, il vit dans la campagne près de Bordeaux. Donc, c'est-à-dire qu'il a des parents qui sont certainement nés fin du XIXe siècle. Il vit dans un monde qui n'est pas industrialisé du matin au soir. Et donc, ils voient arriver tout ça. Et donc, ces gens-là sont toujours très utiles pour penser ce qui se passe. Donc, déjà, un, on peut revenir à cela. On peut revenir à d'Emmanuel Kant sur l'action de l'autonomie de l'individu, la question du droit, la question des libertés politiques, l'action de la dignité de l'homme. Comme dit Emmanuel Kant, les choses ont un prix, l'homme a une dignité. Et là, entre les deux, il n'y a pas d'en même temps, non, non, il n'y a pas de nuance de gris, de je ne sais pas quoi. Il y a une différence qui est fondamentale et qui est absolue. Et donc, déjà, si on est dur sur ces principes-là, ça ira bien. Et donc, c'est de les faire appliquer. En fait, peut-être qu'il faut les réinventer. Pourquoi? Parce qu'on les a oubliés, me semble-t-il. Oui, j'évoquais tout à l'heure la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. C'est bien de le dire, peut-être qu'il faudrait l'appliquer quand on voit la santé mentale de nos plus jeunes. Donc, me semble-t-il que, un, oui, il faut essayer de penser l'IA parce que c'est un phénomène technique qui est radicalement nouveau, mais pour nous protéger, et si on considère que l'intégrité physique et mentale des individus, et particulièrement des plus jeunes, ça vaut quelque chose, eh bien, si on interdisait des designs d'applications, de réseaux sociaux qui rendent accro les gens, parce que c'est fait pour. La plupart des acteurs de la vallée du silicium sortent du département de captologie de Stanford. D'ailleurs, enfin, Stanford, Google, je pense qu'à pied, vous mettez faire un quart d'heure. Hein. Donc, tout ça est dans le même moule. Donc, si déjà, si on interdisait ça, mais regardez, on interdit l'accès à la pornographie, en théorie, parce que on va voir les chiffres, ce n'est pas le cas, mais l'accès à la pornographie pour les plus jeunes. On interdit le tabac, on interdit l'alcool. Donc, on est capable, en tant que communauté politique, en tant que société, de considérer qu'il y a des choses. D'abord pour les jeunes, mais d'autres choses, considèrent que c'est pas bon pour les adultes. Hein. Bah, les jeux d'argent poussés à un certain niveau, quand vous venez accro, on peut vous interdire les casinos. On interdit certaines drogues. Bon. Et donc, acter le fait que tout ça, c'est mauvais pour l'autonomie de la personne. Il y a une citation de Kant, alors je ne sais pas si j'arrive de mémoire, mais quand il nous dit que la personnalité, c'est le degré d'indépendance vis-à-vis des mécanismes du monde. Bon, je pense qu'il parle des mécanismes de la nature, mais aujourd'hui, c'est les mécanismes de. Il faudrait penser à des mécanismes industrieux, des mécanismes de la société industrielle, des écrans qui nous en servent. Et donc, si considérez que la personnalité, l'autonomie, c'est important. Quelle autonomie vous avez lorsque vous ne pouvez pas vous passer de votre téléphone intelligent, lorsque vous avez besoin d'être sur des réseaux sociaux, sur des vidéos? Quelle autonomie vous avez lorsque vous êtes incapable de tisser des relations sociales parce que vous n'avez pas développé votre capacité à être avec l'autre. Vous savez, souvent, le discours que je vois pour nous faire accepter les IA, c'est alors les personnes en situation de handicap. Très bien, moi, pour les personnes handicapées, enfin, des personnes qui sont aveugles, avoir des IA pour les accompagner, mais ça, c'est merveilleux, aucun problème. Dans l'éducation, pareil, des personnes qui ont des dysmorphies, pas dysmorphies, des dyslexies ou autres, mais pareil, c'est merveilleux. C'est souvent le discours pour vous faire passer la pilule pour qu'ensuite tout le monde absorbe la pilule IA qui va les déqualifier au sens, j'évoquais tout à l'heure l'exemple, mais la capacité à rencontrer autrui, à le séduire. Maintenant, vous aurez une IA qui fera le travail à votre place. Parce qu'on a détruit la sociabilité entre les individus. Donc, les individus sont renfermés dans leur chambre, ont de plus en plus de mal à aller vers l'autre. Et donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on a une IA pour ça. Donc, moi, mon propos, il serait de revenir, enfin, de dépoussiérer les principes qu'on est censé incarner. Et en même temps, tout de même, il faut rester très attentif à la mutation ontologique des systèmes techniques. Ontologique au sens où, là, l'IA qui parle, qui pense, qui produit enfin, qui pense, qui mime la pensée, qui produit du beau, du vrai, tout ce que vous voulez, eh bien, il faut les penser parce que là, on est face à une réalité nouvelle. Oui, moi, je passe mon temps à dire que l'IA n'est pas un outil, je l'évoquais tout à l'heure, parce que quand on dit que c'est un outil, que c'est neutre, que ça dépend de comment on l'utilise, j'ai envie de dire, mais foutez de la gueule du monde, il suffit d'ouvrir un peu l'anthropologie des techniques, de rader un petit peu de Ellul, de Illich, de Heidegger, enfin bon, des choses comme ça, pour voir que la technique, c'est un rapport au monde particulier, que l'IA, ça rentre pas dans la catégorie d'outils. Donc, vous voyez, tout simplement de voir ce que l'on a entre les mains et de l'utiliser pour lutter. Quand je dis lutter, c'est simplement au nom de l'humanité, au nom de la dignité, au nom de la civilisation des Lumières, au nom de la démocratie. Ouais, souvent, je passe pour un extrémiste parce que je dis que je veux qu'en démocratie, le peuple soit souverain et pas les acteurs de la technique. Semble-t-il que c'est quand même pas trop demandé. Et alors, en ce moment, je confesse que j'ai une petite passion pour la Révolution française, et donc je m'enivre de discours de Danton, Robespierre, de ces grands tribuns-là. Quand je vois les valeurs qu'ils mettaient en avant, je suis mais effaré de voir de tels engagements, de beaux discours, de la République, de la vertu, de la liberté, de l'égalité. Enfin, c'est extraordinaire. Et quand je vois ce que nous faisons aujourd'hui, j'ai honte, voilà. Pour tout vous dire, j'ai véritablement honte de ce qui se passe.
On arrive à la fin de l'épisode. J'ai une dernière question. Vous avez déjà un peu abordé le sujet, mais j'aimerais terminer là-dessus. Si vous aviez des deux, trois recommandations à faire aux décideurs et au grand public pour aborder de manière critique, responsable, l'utilisation de l'IA et peut-être son développement, ce serait quoi comme recommandation que vous feriez?
Vous allez voir, c'est que du bon sens, me semble-t-il. Quand des acteurs publics décident de mettre en place un système d'IA, à minima, de demander les études internes, les autos externes à la structure pour voir si le système fonctionne. Oui, la police prédictive, scientifiquement, ça n'a aucun sens. Vous allez me dire, oui, depuis un article de 2022 dans Nature, je ne sais plus quelle revue précise du groupe Nature, oui, c'est possible, mais laissez ça de côté, dans le sens où les polices qui utilisent les polices prédictives, ce n'est pas ce système-là. Donc, c'est des systèmes qui, scientifiquement, n'ont aucun sens. Pourtant, on l'utilise. Vous prenez 30 secondes avec Google, vous tapez police prédictive études scientifiques, vous voyez que ça n'a aucun sens. Pourquoi on l'utilise? Des dizaines de polices aux États-Unis, la police de Berlin, la police de Amsterdam. Bon. Pareil, enfin bon, des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Tout à l'heure, j'évoquais quand même le cas des Pays-Bas, un système avec un taux d'erreur à 90%. Et comment on peut faire une chose pareille? 30 000 familles endettées, 2 090 enfants retirent leur famille. Gouvernement qui tombe, et tant mieux. Comment on fait une chose pareille? Le foncier innovant, donc c'est pour traquer les piscines non déclarées. Bon, on fait appel à Capgemini et Google, ça coûte 30 millions. Derrière, on fait travailler les travailleurs du CLIC à Madagascar. Donc, c'est bien pour remplacer les emplois des géomètres du cadastre, et on a des taux d'erreur à 30%. Bon, vous voyez, déjà, un peu de bon sens, mesdames, messieurs. Un peu de bon sens. J'arrive même pas à m'expliquer ça. Pour tout vous dire, là, alors je commence à rencontrer des politiques ou des élus, et vraiment, de leur faire passer le message, simplement. Mais attendez, mais c'est bon pour personne. Ça coûte très cher. Ça produit des erreurs fondamentales. Et derrière, ça peut détruire des vies. Donc, mais personne n'est pour ça. Personne. Donc simplement, un peu de bon sens. Demandez des études, avancez à petits pas, mettez la fiabilité. Parce que derrière, c'est aussi la légitimité de l'État qui est en question. Mais comment un citoyen peut faire confiance à son État quand on est aux Pays-Bas quand il y a des choses pareilles qui arrivent? Ensuite, c'est brisé. Parce qu'aujourd'hui, la légitimité de l'État, elle passe par la performance publique, par la performance, le management et autres, pas par des principes fondamentaux. Et donc, quand on met sa tête sous le couperet de la performance, le risque, c'est que si vous n'êtes pas performant, eh bien, vous passez sur le bio. C'est assez inquiétant. Donc, déjà, premier point, arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de courir pour être les premiers. Je dis souvent que ce n'est pas monter dans un train, c'est monter dans un avion. Parce que si on considère que c'est monter dans un avion, l'IA. Et donc, l'aviation civile, c'est extraordinaire. La fiabilité est extraordinaire. Ça fait des choses extraordinaires, l'aviation civile. Sauf qu'on a bien conscience que on veut des systèmes qui soient bien testés au préalable. Sinon, on aurait peur de monter dans l'avion. Mais là, c'est strictement la même chose. Donc, considérez que c'est un avion et considérez que vous allez devoir monter dedans. Donc, au moins, ayez un peu de sérieux. Par rapport à nos politiques, j'aurais envie de leur dire, mais si vous voulez être remplacé par une IA, ben, continuez comme ça. Alors, il y a une étude qui a été faite en 2019. Malheureusement, elle n'a pas été refaite depuis. J'ai pas trouvé d'autres chiffres là-dessus. On demandait aux Européens si vous voulez que vos élus soient remplacés par des IA. Alors, on retrouve un quart des Européens le souhaitaient. 2019, hein, avant ChatGPT, tout ça. Aujourd'hui, je pense que le chiffre a dû exploser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux Pays-Bas, ça monte à 43%. Alors, c'est le pays qui utilise le plus d'IA dans le secteur public, et notamment les catastrophes que j'ai pu évoquer. En Australie, vous avez un rapport du Premier ministre de 2023 ou 2022, j'hésite, qui dit on va devenir une société conduite par les données, Data Driven Society. Donc là, si on veut, c'est la politique. Alors, faire de la bonne gestion publique, je veux bien, mais il faut arrêter de dire que le politique ne sert à rien, donc arrêter de s'autoflageller et de dire qu'on va laisser la technique gouverner. Sinon, à la fin des fins, les citoyens diront, écoutez, autant avoir l'original plutôt que la copie, et donc autant avoir de l'IA. Donc arrêtez d'être uniquement dans des critères de performance publique, proposer des idéaux. Parce qu'en l'état, le revenu universel ou aller sur Mars, ça, c'est proposé par Sam Altman et Elon Musk. Donc, les grands projets de société, des changements de société, c'est proposé par des acteurs de la Silicon, de la vallée du silicium. Et donc, retrouvez votre rôle de politique. Lisez des livres, par pitié, parce qu'en l'état, j'ai pas l'impression que beaucoup vous lisez. Soyez dans les perspectives, dans les projections. Offrez-nous des utopies. Faites votre rôle de politique. Et donc, moi, je disais, avant que Macron évoque le président Macron, ce vocable, je disais qu'il fallait réarmer le politique par les idées. On a les politiques qu'on mérite en même temps. C'est pour ça que je crois qu'il faut redorer le blason de la presse qui fait un travail extraordinaire, mais qu'on ne lit plus assez. Donc, abonnez-vous à des journaux, lisez de la presse, proposez des tribunes dans la presse, allons dans les associations, les corps intermédiaires pour agir dans la société civile, peu importe dans quel domaine. Mais je crois que j'aime beaucoup la citation de la philosophe du droit Antoinette Rouvroy, qui dit que le numérique colonise tous les endroits que nous déshabitons. Donc, en l'état, comme on a désinvesti de l'école, eh bien forcément, c'est le numérique qui frappe à la porte, qui est déjà rentré d'ailleurs. Comme on ne s'intéresse plus assez au journalisme, on ne lit plus assez de journaux, notamment les plus jeunes qui s'informent principalement par les réseaux sociaux. Bon, c'est quand même tout à fait terrible. Forcément, OpenAI frappe à la porte et il y a des partenariats entre les grands journaux et ces acteurs-là. Bon, il faut réinvestir le monde, sans quoi les acteurs de la technique, eux, ont la puissance avec des. Je crois que c'est 300 milliards qui vont être investis en 2025. C'est des sommes qui sont assez faramineuses. Ils ont la puissance économique, ils ont la puissance technique, ils ont la puissance idéologique. Bon, ils ont la puissance tout court. Je voyais récemment, et assez extraordinaire, là, enfin, extraordinairement, Amazon, bon, qui est un drame en termes de management, ça recrute, ça évalue et ça vire par algorithme. Ils ont aussi une IA Mentor qui sert à traquer, enfin, à contrôler les chauffeurs. Ça marche très mal là aussi, donc bon, je ne vais pas passer les détails. Mais là, j'ai vu récemment dans la presse des lunettes de réalité augmentée, le but étant d'améliorer les 100 derniers mètres, donc gagner quelques secondes, en gros pour piloter l'humain qui vibre. Pourquoi c'est tout à fait terrible et tout d'un coup, j'ai perdu mon fil avec Amazon. Ah oui, c'est ça. C'est que Amazon, les frais de livraison d'Amazon, c'est 23,5 milliards. C'est le PIB de l'Albanie. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est que Amazon pèse tellement que les frais de livraison, c'est le PIB d'un petit pays. Donc, Amazon, c'est quasiment 80 milliards de budget en recherche et développement. La France, le budget d'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne sert pas que à faire la recherche et développement. Hein. Et puis, ce n'est pas que dans le domaine technique. Hein. On a des domaines très différents au sein des universités. Mais là, c'est, je crois, on est à 27 milliards. Vous voyez la différence de poids. Et donc là, on voit la puissance du monde. On évoquait tout à l'heure les GPU avec Microsoft qui en a 1,8 million, bon, de GPU. Le monde est en train de basculer. Le monde est en train de basculer. Donc, j'ai envie de dire aux politiques, soit vous démissionnez, au sens propre du terme, parce que là, actuellement, vous êtes réellement en train de démissionner. Le RIA est une blague absolue. J'aime bien rappeler que le premier texte, la version du texte qui sort en 2021, ne prend pas en compte l'IA générative, mais qu'ils sont encore à l'IA prédictive. Alors que l'IA générative, c'est dans la presse. C'est dans la presse, il y a des scandales. Donc, je ne sais pas comment on peut être aussi mauvais. Ils ne sont même pas capables de faire de la prospective, ils ne sont même pas capables de voir le réel qui est sous les yeux. Donc vraiment, je suis très inquiet là-dessus. Donc je crois, mais il y a des forces hein, sur les écrans dans l'éducation, il y a des associations, il y a des prises de parole dans la presse, donc il y a des invitations dans les commissions parlementaires, il y a des rapports. Donc voilà, il y a des acteurs de la société civile, mais j'ai envie de dire que c'est notre responsabilité à tous. J'ai envie de vous dire à chacun, c'est mon côté aux Français en ce moment, hein, citoyen, lève-toi. Citoyen, c'est la vertu publique a besoin de toi, car la nation est en danger. Donc de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace. Comme dit Danton.
Merci beaucoup, Marius, d'avoir répondu à mes questions. Puis j'espère à bientôt alors.
Merci encore, Clément. C'est un vrai plaisir. À très bientôt, j'espère.
L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.